Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
En France, 556 000 personnes sont mortes en 2014. Qu'on le veuille ou non, la mort est un fait inéluctable. Source d'angoisse pour certains, réalité trop lointaine pour d'autres, la mort, on y pense, mais souvent le plus tard possible. Pourtant, la mort est-elle forcément une mauvaise nouvelle? Et si ce qu'il y avait après la mort était au contraire au-delà de tous nos rêves? Alors, pour parler de cette question de la mort et cette question toute simple, qu'y a-t-il après la mort en ce jour de fête des défunts, le 2 novembre? Je reçois ce matin le père Christophe Véron, dont vous êtes curé des paroisses de la Trinité de Saint-François-Xavier et aumônier à l'IUCT Oncopole. Bonjour.
Bonjour.
Le père Bernard Bertu, vous êtes curé de la paroisse Saint-Nicolas et fondateur de Radio Présence. Bonjour.
Bonjour.
Et le père Philippe-Marie Margelidon, dominicain, docteur en théologie et auteur, entre autres, des fins dernières aux éditions Artege. Bonjour.
Bonjour.
Alors, au début de cette émission, on dit souvent, au sujet de la mort, qu'il y a un déni collectif autour de la mort. C'est-à-dire que, depuis la Seconde Guerre mondiale, en gros, si j'ai bien compris, c'est ce que disent les sociologues, collectivement, en tout cas en Europe, la mort, en fait, disparaîtrait du champ du quotidien. À ce fait, il y aurait plusieurs raisons, la professionnalisation autour des obsèques, etc. Alors, avant peut-être de parler de vos réalités pastorales, est-ce que vous diriez, vous qui êtes plus ancien, que c'est l'expérience que vous faites, ou en tout cas c'est ce que vous constatez, peut-être, père Bernard Bertuit, pardon.
Oui, évidemment, on constate effectivement que la mort, au moins dans ce qui relève des célébrations religieuses, a perdu en nombre, en ce sens que beaucoup de gens passent par d'autres moyens pour vivre la mort d'un défunt. N'en reste pas moins que, à mon avis, c'est un petit peu une manière de cacher la réalité, savoir qu'à un moment ou à un autre, il m'apparaît légitime et normal d'avoir la mort devant les yeux, en quelque sorte. Et ça me paraît une évidence aujourd'hui, même si apparemment on semble vouloir l'occulter.
Alors, à ce sujet, en préparant cette émission, je tombais sur ce sondage donc, des pompes funèbres générales de la Toussaint 2010, qui disait que malgré tout, 91% des Français connaissent la mort, et 80% des Français ont déjà vu le corps d'un défunt. Alors, peut-être, père Philippe-Marie Margelidon, est-ce qu'il y a un paradoxe dans notre société? C'est-à-dire que la mort, on n'y pense pas, c'est loin, et pour autant, tous, un jour, ben, on a enterré un grand-père ou une grand-mère.
Oui, c'est ça, c'est tout à fait un paradoxe, et peut-être étonnant, mais qui est le propre des sociétés sécularisées, hein, donc, où la conception, disons, entre guillemets, laïque, de la vie et aussi de la mort est omniprésente, en tout cas dans ses représentations sociales, mais où existentiellement les choses sont un peu différentes. Donc,
ça veut dire quoi, ces représentations laïques sont omniprésentes?
Ben, omniprésentes, c'est-à-dire par mode de, justement, on vous avez dit caché, on ne représente surtout pas la mort, sauf à certaines occasions, par manière de dérision, par exemple, comme les fêtes de... Enfin, les choses qui se passent en ce moment.
Halloween, vous voulez dire, par exemple?
Par exemple, parce qu'elle se joue sur plusieurs registres, à la fois le rire et puis la gravité. Hein, c'est un mélange assez subtil. Et puis d'autre part, les signes distinctifs, disons, traditionnels de la mort disparaissent. On ne détruit pas les croix dans les emplacements, mais on n'en rajoute pas. Et dans les maisons, elles disparaissent aussi. Vous allez chez des gens, moi j'y vais, je suis frappé du fait qu'il n'y a pas de signes. Il y a une photo éventuellement d'un défunt, mais ça ne va guère plus loin. Les signes extérieurs de la mort, on était en noir jadis, maintenant on est en... Il faut que ce soit vite fait, hein, d'ailleurs, donc on ne les manifeste plus. Donc ça, c'est absolument indéniable. Hein. Je crois que c'est de la sociologie pure. En revanche, comme vous le disiez, mon père, c'est une question de existentielle et humaine fondamentale à laquelle, un jour ou l'autre, on est confronté. Donc, on revient à s'interroger sur qu'est-ce que la mort, d'abord, qu'est-ce que la mort, et puis, qu'est-ce qu'il y a après la mort, avec ou sans Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort?
Alors, père Christophe, je vais vous donner la parole. Je cite à nouveau quelque chose que j'ai glané en préparant cette émission, entre autres Damien Leguay, qui est un philosophe qui a beaucoup écrit sur la question de la mort et qui avance cette affirmation, qui dit qu'en fait, en France, il y aurait une dépression sur deux qui serait liée en fait à un deuil mal fait. Alors, est-ce que de fait, il y a pour vous, alors peut-être sans parler ou en parlant de votre expérience pastorale, pour vous, il y a cette distorsion en fait entre la mort, de faire face à la mort, on essaye de le fuir, et pour autant, elle fait partie de la vie.
Alors je crois qu'il y a un gros paradoxe dans notre société, c'est que la mort est très présente, mais elle est très présente de façon virtuelle. Regardons le nombre de films, et si on est un peu accro à la télé, des morts dans une journée, on va en voir un paquet. Si en plus vous rajoutez l'information, et si vous retirez les morts sur l'information, il ne reste plus grand-chose. Pour tous les ados, si vous regardez leurs jeux vidéo, c'est « on tue avant d'être tué ». Donc il y a tout un paradoxe où on a une mort présente, mais elle est virtuelle. Quand la mort réelle vient, et là je rejoins tout à fait le sondage que vous avez dit, on voit des situations très paradoxales. Je me souviens d'un petit gamin de 7 ans qui se plante devant sa marraine qui arrive et qui lui dit « bon ben marraine, maintenant on va voir papy ». Et ils sont partis voir papy à la maison funéraire. Et en revenant, le garçon nous dit « Waouh, qu'est-ce qu'il dort bien ?» Et c'est très intéressant, si je cite cette anecdote-là, c'est parce qu'on cherchait, en tant que parent, à protéger l'enfant. Et à dire « Ben voilà, grand-père, il est à la maison funéraire, il n'est pas là avec nous. » Les rites ont changé. Et le garçon dit « Mais non, moi j'ai besoin d'être affronté. » La peur des parents, il met sa marraine devant une réalité qu'elle n'a pas du tout percutée. Et ensemble, ils ont été voir le mort, voir la rencontre de la mort. Bon là, c'est un enfant avec une perception qui est celle d'un enfant, qui n'est pas du tout celle d'adulte.
Alors peut-être j'interroge là-dessus les plus anciens, par exemple le père Bernard Berthuis. Vous, de votre temps, comment on faisait face à la mort? Est-ce qu'on veillait les morts? Est-ce que
oui, ça arrivait. Oui, effectivement, il y avait même le voisinage qui venait pour une prière commune et l'ensemble des gens participaient à une veillée de prière autour du défunt. Ça se faisait pratiquement partout. C'était un moment aussi où la communauté villageoise, si j'ose dire, en dehors de la communauté chrétienne, mais peut-être on peut les deux rassembler d'une certaine manière, se retrouver justement pour parler du défunt, ce qu'il avait vécu, surtout s'attachant beaucoup à ce qui avait été fait de bien dans sa vie, etc. Quelquefois, après, ça faisait des éloges funèbres un peu trop élogieux, mais ce qui était sûr, c'est que là, on essayait d'aller voir ce qui, d'une manière ou d'une autre, pouvait être reconnu également par Dieu, dans la mesure où on croyait en lui, se disant... Eh bien, il a fait quand même des choses qui doivent faire dire à Dieu « tu es mon enfant ».
Est-ce que pour, je prolonge la conversation, est-ce que pour bien vivre, en fait, il faut savoir faire face à la mort? Ma question plus précise est, souvent, on entend dire que le propre de l'homme, à la différence de l'animal, c'est d'avoir une ritualisation autour de la mort. C'est-à-dire que ce qui distingue, quand on parle avec des gens qui sont athées, in fine, on dit, mais on n'a jamais vu d'éléphant, on n'a jamais vu de lion avoir un rite funéraire, enterrer leur prochain et prononcer un éloge funèbre sur la vie de l'éléphant père Philippe Margelidon.
La question de la vie, c'est aussi la question de la mort, et la question de la mort, c'est la question de la vie. Donc c'est ne pas vouloir regarder la mort en face, comme disait Bernanos, c'est inhumain. C'est inhumain. C'est pas simplement anti-religieux ou a-religieux, disons, pas anti. C'est inhumain. Donc je pense que ce déni dont nous parlons, qui est un paradoxal, c'est une forme de négation de l'homme. Et donc, je crois qu'il faut se réapproprier la mort, ça veut dire la réapprivoiser, il faut vivre avec. De toute façon, elle s'impose à vous, un jour ou l'autre. Alors, il faut, comme toute chose, il faut s'y préparer. Que philosopher, c'est apprendre à mourir, disaient les anciens. Je pense que c'est pas que pour les anciens, c'est aussi pour les modernes.
Père Christophe Véran.
Dans la présentation, vous avez dit que j'étais l'aumônier à l'Oncopole, et à l'Oncopole, on accompagne...
Vous pouvez préciser peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Oncopole.
C'est l'hôpital qui est sorti de terre à Toulouse pour remplacer AZF et qui traite particulièrement le cancer. Donc les pathologies sont liées au cancer. Et ce qui est très intéressant pour tous ceux qui, dans les hôpitaux, rencontrent cette pathologie du cancer, c'est la question du sens. La question de qu'est-ce qu'on devient, et je pense à tout ce qu'on peut vivre dans l'accompagnement des derniers jours et l'importance de donner une consistance à cette vie.
Et
qui est là.
Est-ce à dire que les gens, justement, forts de ce qu'on a dit avant, en fait, arrivent très désarmés en fait, face aux derniers jours, justement. C'est-à-dire, dans le fond, ayant fui la mort, ou n'en parlant pas en famille, ou ni faisant pas face, ni collectivement, ni familialement, ils sont un peu. Enfin, l'expérience que vous faites, c'est que les gens sont un peu perdus face à ces derniers jours.
Eh bien, non, je ne fais pas cette expérience-là. Je pense qu'au contraire, ceux qui acceptent de la voir en face ne sont pas perdus et découvrent des trésors de vie humaine et spirituelle qui les dépassent et qui disent heureusement qu'on a vécu ces moments-là parce que ça nous aide et ça nous soutient dans cette épreuve.
Thank you. présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, avec nos invités, nous posons cette question simple et pourtant essentielle. Qu'y a-t-il après la mort en ce 2 novembre, jour des défunts, et après cette grande et magnifique fête de la Toussaint? Pour rappel, aujourd'hui, je reçois donc le père Christophe Véron, qui est curé des paroisses de la Trinité et de Saint-François-Xavier et aumônier à l'UCT Oncopole. Le père Bernard Bertuis, qui est curé de la paroisse Saint-Nicolas et fondateur de Radio Présence. Et le père Philippe-Marie Margelidon, qui est dominicain, docteur en théologie, auteur, entre autres, je vais y arriver, des fins dernières aux éditions Arthège. Alors après avoir vu rapidement, peut-être trop rapidement, ce paradoxe dans notre société entre cette mort qui à la fois est omniprésente dans les médias, en même temps qu'on fuit, enfin ce face-à-face difficile avec la mort, qui, vous disiez, père Philippe Margelidon, en fait est terrible parce que c'est source d'une grande angoisse, ça peut être source d'une grande angoisse personnelle et collective. Peut-être justement, je voulais là avoir votre réaction pastorale, votre expérience. On lit dans les médias, puisque c'est ma spécialité, que les gens ne croient plus à la vie après la mort. Alors par exemple, il y a ce sondage La Vie Opinion Way de 2012, où 68% des sondés disent qu'il n'y a rien, il n'y a pas de vie après la mort. Est-ce qu'il y a une forme d'athéisme face à la mort? Est-ce qu'en fait la plupart de nos contemporains, en tout cas des Français, vivent en se disant un jour on va mourir et il n'y aura rien, on ne fera que nourrir les vers de terre, père Philippe Margelidon?
Alors il y a deux questions différentes. La question de savoir s'il y a une vie après la mort, elle est quand même très présente. Vie, alors vie, qu'est-ce que c'est que la vie après la mort? C'est la définition de quelle vie de parlons-nous? Vie, bon, athéisme, c'est encore autre chose. Je pense qu'en effet, on pense, beaucoup de gens, moi j'ai affaire à beaucoup de gens qui me disent qu'il y a une certaine forme de vie, qui ne savent pas très bien, indéterminée après la mort, qu'il règne de l'amour, enfin ça reste très indéfini, mais qui ne parle pas de Dieu. Donc quand on parle athéisme, il y a un athéisme autour de la mort et avec la mort. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on nie le religieux, c'est un humanisme, c'est un religieux laïcisé, si vous voulez, mais ce n'est pas un religieux chrétien, nécessairement, d'une part, et d'autre part, qui n'intègre pas nécessairement l'idée, appelons ça comme ça, de Dieu. Hein, moi, Dieu, ça vient en cours de route, mais ce n'est pas forcément le cœur.
Donc il y a une aspiration en fait à l'éternité, il y a comme
à l'immortalité, mais à une certaine forme d'immortalité,
mais dans laquelle on a retiré en fait l'idée même de Dieu en fait.
Pas pour tout le monde, mais elle n'est pas toujours, ou en tout cas tout de suite présente.
Alors est-ce que les uns les autres, c'est votre expérience, père Christophe Véron?
Alors tout d'abord, il peut y avoir l'expérience, moi, qui m'a énormément marqué, d'un groupe de jeunes où l'expérience de la vie, dire qu'il y a quelque chose de vivant après, c'était très loin de leurs préoccupations. Et ils étaient en train d'enterrer un de leurs copains décédé d'un accident de voiture. Ils passent à la célébration de funérailles, on passe un morceau de musique que le garçon aimait bien. Et quelques jours après, ce même morceau de musique est passé en discothèque. Et je les rencontre dans la ville où j'étais à l'époque. Et ils viennent me voir en disant « On sait qu'il est vivant. »
Et pourquoi ?
La musique qu'ils ont réentendue est venue les interpeller. Ils n'étaient plus dans l'espace purement de la mort. Ils avaient quitté, ils étaient enterrés. À un moment donné, ça revient et ils sortent en disant « On sait qu'il est vivant. »
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous voulez dire que derrière cette aspiration en fait, à l'éternité, parfois Dieu se sert justement de médiation enfin étonnante pour donner la certitude
même
de la vie éternelle.
Surprenante, ouais. Même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelque chose qui n'était pas spontané, qui n'était pas inné en eux de dire il y a quelque chose de la vie après la mort, s'est manifesté à un moment donné. Et ça, on en fait, nous, souvent l'expérience. Alors, là où je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit aussi, c'est que c'est une expérience humaine. Une profondeur humaine où on a du mal à gommer la présence de quelqu'un dans le monde. Voilà. Je ne parlerai pas d'athéisme, là je reste sur un aspect purement humain, et c'est sur ce terreau humain que nous aurons et que nous avons, nous en tant que pasteurs, à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Père Bernard Battu, donc le propre de l'homme, c'est de mourir, c'est de ritualiser autour de la mort, mais est-ce que le propre de l'homme, c'est pas aussi d'avoir cette aspiration à ce désir d'éternité ?
Je pense qu'à un moment ou à un autre, on se pose la question de savoir en quoi la mort peut-elle être bénéfique. On le voit, nous, dans les préparations de sépulture, il y a énormément de recherches et de quêtes. S'il est vrai que quand on demande aux gens de nous parler de leurs défunts, tous n'ont pas les moyens, j'allais dire, de pouvoir aller chercher dans la vie du défunt ce qui, d'une manière ou d'une autre, est appelé à ressusciter, si j'ose dire. C'est-à-dire tout l'amour qui a pu être mis. Je pense que la société dans laquelle on est, et qui a, par exemple, il y a 4 ans, dans un site qui s'appelle Sciences Sociales, il était dit qu'il y avait eu, de la part des Américains athées, une sorte de développement pour signifier l'absence de Dieu dans la vie et de tout faire pour que ce Dieu disparaisse, qui est arrivé aussi chez nous. Et moi, je trouve que, en fait, Dieu est toujours latent quelque part et on ne s'en rend pas compte. Il suffit simplement, à un moment ou à un autre, qu'il intervienne pour nous dire qu'il y a autre chose, un au-delà, ce que beaucoup de gens retrouvent maintenant. Et à travers cette idée de cette présence, eh bien, il commence à se poser des questions petit à petit. Je trouve qu'aujourd'hui, depuis quelque temps, il me semble, mon expérience au quotidien, me laisse à penser que beaucoup de gens s'interrogent davantage.
Père Philippe, Marie Marjolidon, en préparant cette émission, vous me disiez qu'en fait, il y a très peu de gens qui ne se posent pas la question d'une vie après la mort, comme en fait, dans le fond, il y a très peu d'athées, à tel point qu'en fait, dans tous les rites funéraires, y compris lors de crémations dites laïques, en fait, on essaye d'inviter du sacré. Alors, tout le monde n'a pas assisté à une crémation. Comment ça se passe ? Enfin, sans peut-être trop détailler, mais est-ce que vous nous donnez des exemples de ce type de
Alors
situation
moi je vais vous parler des exemples
sacré s'invite, malgré tout.
Où on m'a invité, c'est-à-dire là pour le coup, on fait appel à un prêtre. Alors un prêtre, ils ne savent pas forcément exactement tout ce que ça peut représenter, mais donc pour eux, c'est dans une crémation à ce moment-là, ce n'est pas simplement un rite, un rite laïque, il y a une dimension religieuse, puisqu'on fait appel à moi. Donc qu'est-ce qu'on me demande ? On me demande de faire une prière qu'ils sont incapables de faire eux-mêmes, ou au moins une partie de l'assemblée qui est là, et de prier pour le défunt et la famille du défunt. C'est souvent cela qu'on me fait. Alors, il y a plusieurs propositions possibles. Quand ce sont des chrétiens ou quand c'est à moi qu'on appelle, bon, bah, c'est une proposition chrétienne, une forme chrétienne qu'on va donner à cette cérémonie dans le funérarium. Mais il y a d'autres formes qui ne relèvent pas de moi, que d'ailleurs proposent les services funéraires, qui sont, alors là, il y a un peu de tout. Hein. C'est parfois un peu orientalisant. Parfois, ça n'a pas de forme, justement, théiste. Hein, c'est une forme religieuse, mais non théiste. Hein, on ne parle pas de Dieu, on ne fait pas de référence à Dieu, mais à une certaine immortalité, éternité. Enfin, je préfère le mot immortalité. Hein, donc, c'est comme ce n'est pas à l'église, c'est dans un lieu qui se veut neutre et qui peut prendre des formes extrêmement variées selon les familles. Et donc, quand c'est moi que l'on fait venir, on va demander à un prêtre catholique. Donc, il y a quand même une référence explicitement religieuse chrétienne à ce moment-là. Donc, ça change un peu la donne. Mais la plupart de ceux qui vont en funérarium ne font pas appel à un prêtre catholique. Hein. Il faut bien pratiquement 90%. Donc là, ça prend des formes extrêmement diverses.
Alors, peut-être, j'avais une question avant qu'on rentre dans la, comment dire, dans la foi chrétienne, hein, par rapport à la mort. Une question autour de la réincarnation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir l'impression qu'il y a une culture New Age qui se développe en Europe, qui intègre en fait certains éléments du bouddhisme, ou peut-être parfois pas complètement compris, et entre autres cette foi ou cette croyance en fait en une multitude de vies, ou en tout cas en une réincarnation, en d'autres vies après la vie, mais d'autres vies ici-bas. Est-ce que c'est des choses que vous constatez, vous, dans votre pastoral, ou est-ce que là, pour le coup, c'est des vues de journalistes, Père Christophe Véran ?
Difficile de répondre. Moi, je vais répondre avec ce que je perçois dans la célébration des funérailles et avec ce que, dans l'équipe de funérailles, nous percevons à travers des mots rédigés par les familles et qui prennent corps dans la célébration, qui prennent leur place dans la célébration. Je suis toujours surpris par tous ces mots. Veille sur nous, tu sauras nous accueillir. Tu seras là quand viendra notre tour. Tous ces mots où on a vraiment la perception de la continuité de la vie. Donc on n'est pas sur une forme de réincarnation. On est sur une forme de vie nouvelle. Comment est-elle définie? Là, il y aurait beaucoup de questions, je pense, à aller creuser. Mais on est, dans très, très nombreux cas, sur une ouverture à la poursuite de la vie. Une attention particulière, on sait que tu vas veiller sur nous, ta protection sera sur nous, tu vas nous guider, on ira écouter, on ira... Et toutes ces paroles-là qui sont formulées dans la célébration des funérailles me laissent vraiment dire, ben oui, il y a un désir profond de l'homme à retrouver celui ou celle qui vient de les quitter.
Il y a un désir profond dans le cœur de tout homme à les retrouver et à cette vie éternelle. On va faire une deuxième pause et puis après on verra justement quel est le propre de la foi chrétienne autour de la mort. Que nous dit la Bible, que nous dit l'Évangile, que nous a dit le Christ sur ce sujet.
Radio Présence aux portes du Tarn, 97.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, nous parlons de la vie après la mort avec cette question « Qu'y a-t-il après la mort ?» Donc, pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, je reçois donc le père Christophe Véron, qui est entre autres aumônier à l'UCT Oncopole, le père Bernard Bertuis, bien connu de nos auditeurs, qui était fondateur de la radio, tous les deux sont curés de paroisse, et le père Philippe Margelidon, dominicain et entre autres auteur donc, des fins dernières aux éditions Artege. Alors, peut-être dans cette deuxième partie d'émission, même pas peut-être, sûrement, maintenant parlons de la foi chrétienne autour de la mort. Je vous lance tout de suite, Père Philippe Margelidon, avec cet extrait du catéchisme de l'Église catholique, qui parle des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Parfois même, nous, les croyants, en fait, on n'a pas conscience de ça, ou on peut avoir du mal à comprendre, mais si j'ai bien compris, un jour, le Christ reviendra dans sa gloire, ça sera le jugement dernier, et Dieu récapitulera tout, et il créera aussi les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Alors est-ce que c'est ça la promesse en fait qui répond le plus secrètement au désir de notre cœur, qui est un jour en fait de vivre pour toute éternité avec Dieu, mais en plus dans ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle? Alors qu'est-ce que c'est que ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle?
Alors c'est la fin ultime, ce qu'on appelle les cieux nouveaux et la terre nouvelle, c'est dans l'Apocalypse et c'est déjà aussi dans l'Ancien Testament. C'est l'idée que ce monde-là est un monde transitoire et que nous nous acheminons vers un état nouveau de ce même monde, transformé par la puissance recréatrice de Dieu, dans lequel Dieu sera tout en tous. C'est la grande idée biblique. Donc ça veut dire que nous sommes certes dans ce monde, mais nous allons vers un autre monde, un monde nouveau, qui sera achevé quand l'histoire humaine sera achevée, c'est-à-dire quand Dieu y mettra fin. On ne sait pas quand, mais quand il y mettra fin, ça correspondra à ce que vous appelez la parousie du Christ, c'est-à-dire l'ultime manifestation du Christ ici-bas, sous une forme que nous ne connaissons pas, ce qu'on appelle encore et qui sera un jugement où toute chose sera jugée, et même l'histoire étant récapitulée, sera jugée. Il y aura une discrimination de ce qui est bon, et puis de ce qui est à purifier, et puis de ce qui est à jeter.
Alors peut-être avant de parler du jugement justement, enfin ce qu'on peut appeler le jugement après la mort, ce moment où on ferait face à Dieu, en tout cas c'est ce que croient les chrétiens, c'est ce que nous croyons. En quoi c'est une bonne nouvelle en fait qu'un jour on vive avec Dieu pour toujours et dans ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle? En quoi c'est une bonne nouvelle qui peut intéresser nos contemporains?
Ben, c'est une bonne nouvelle parce que nous justement ce que nous vivons actuellement est temporaire. Est capital, mais temporaire, et que nous acheminons tous vers un état supérieur, ou disons meilleur, de perfection, de monde, non seulement de l'esprit, mais même de la matière. C'est ça la grande et bonne nouvelle, c'est que Dieu, qui est créateur, est aussi recréateur, et ce qu'il a fait, il le recrée autrement et mieux encore. Ça veut dire que donc nous allons vers une fin positive, que le monde ne s'achèvera pas ou disparaîtra dans le pur néant, dans le rien, enfin je ne sais pas quel terme on peut utiliser. C'est ça la bonne nouvelle. Et que ce n'est pas simplement pour moi personnellement, c'est pour tout le monde, tous les justes, en tout cas tous les élus, comme dit la Bible, et avec les élus, la terre entière, le cosmos tout entier. Ça sera mieux que la science-fiction.
Alors, Père Christophe Véron, c'est vrai, c'est mieux que la science-fiction. On se dit qu'il faudrait faire des séries télé là-dessus. Est-ce que, entre guillemets, pardonnez-moi la trivialité de mon langage, mais est-ce que c'est ce que vous vendez, en fait, aux gens quand ils arrivent en leur parlant de la vie éternelle et du ciel? J'imagine que c'est pas si simple que ça, de parler du ciel, en fait.
Parler du ciel, c'est peut-être le plus simple. Parler de la vie éternelle, c'est déjà beaucoup plus difficile.
Pourquoi c'est simple en fait? Parce que le ciel, on en a une idée innée en fait.
Parce que déjà, assez spontanément, vous savez, quand une famille perd quelqu'un et qu'il y a des petits-enfants, on va dire, voilà, mamie, elle est au ciel. Donc, il y a la notion de royaume qui est là, même s'il est intemporaire, on ne sait pas trop où c'est. Alors que si on réfléchit bien, et là, je vous fais part de la petite réflexion d'un petit enfant un jour, qui a dit à l'autre, le ciel, il commence au ras du trottoir. Et je crois que c'est très beau parce que la réalité d'un enfant, elle est là. Certes, après la mort, on voit le ciel, on voit ce royaume, on voit ce paradis, mais en même temps, on a déjà le cœur dans le ciel, même si on a encore les pieds sur terre.
Mais peut-être ça, on en parlera après. Dites-nous, le ciel, à quoi ça ressemble? Et qu'est-ce que vous avez comme preuve, entre guillemets, ou qu'est-ce que la foi crée? Qu'est-ce que nous, chrétiens, avons comme preuve, en fait, de l'existence de ce ciel?
On n'a aucune preuve. Alors, par contre, fondamentalement, on a une espérance. On a une espérance qui se fonde sur une personne, Jésus-Christ. Et moi, j'aime bien, dans la célébration des funérailles, faire le lien entre la croix qui est présente sur le cercueil, qui nous dit la vérité de l'humanité de Jésus, et le lien avec le cierge pascal, qui nous dit notre espérance qu'au travers, par Jésus, le premier, la mort est vaincue. Et Christ est vivant, Christ est ressuscité, c'est là, pour moi, le nœud de la foi chrétienne. C'est cette articulation entre une humanité et une vie sans fin du Christ ressuscité par un passage, le passage de la mort, le passage qu'on appelle Pâques et ce que l'on fête à Pâques. C'est une espérance qui peut être tellement forte qu'elle devient une certitude, mais je ne peux pas la démontrer. Je prends souvent l'analogie aussi. Démontrez-moi l'amour. Non, l'amour, vous ne pouvez pas le démontrer. Vous allez montrer des preuves d'amour, vous allez montrer des signes d'amour. Mais on ne peut pas démontrer l'amour. On va en donner des signes. Alors à nous aussi, en tant que pasteurs, des fois, de savoir révéler des signes d'espérance, des signes de résurrection.
Père Bernard Berthuis, je vous relance avec cette question, hein, même si évidemment on a entendu le père Christophe Véron, et si on est sur Radio Présence, mais faut-il le rappeler, le Christ est le seul homme qui soit revenu réellement de la mort et qui se soit manifesté à ses apôtres en étant vivant. C'est une précision importante, c'est le seul homme de l'histoire de l'humanité dont on ait trace en fait de ce récit.
Oui, tout à fait. Mais en même temps, ce qui me paraît très important dans ce Christ ressuscité, c'est de se dire ces apôtres qui l'ont accompagné et tout, ils s'enfuient alors qu'on vient l'arrêter pour le mettre en croix. Comment se fait-il que ces gens-là, le jour de la résurrection, ayant constaté que le Christ était ressuscité, ont fait le tour du monde d'alors pour témoigner de cette réalité? Comment de veulent, de peu courageux sont-ils passés à l'audace de l'annonce de la résurrection? Il suffit de voir Pierre dans les Actes des Apôtres haranguer la foule pour leur expliquer que ce Christ était ressuscité.
Des milliers de personnes.
Oui, et en même temps, il est apparu à plus de 500 personnes, dit Saint Paul. Il ajoute, et il m'est apparu à moi aussi comme à l'avorton, parce que moi j'étais le persécuteur des chrétiens. Et je me dis, ce témoignage, eh bien c'est là-dessus que finalement nous croyons. Mais dans la vie de tous les jours, que de fois on a besoin de témoins parce qu'il y a un enfant qui a été écrasé par une voiture, que ceci, que cela. On en recherche les témoins. Et il y en a là des apôtres qui sont des gens qui ont été jusqu'à donner leur vie dans des situations de martyrs. Moi, je ne peux pas ne pas croire que ce témoignage soit vrai. On ne s'amuse pas avec ce genre de choses.
Père Philippe, Marie, Marjolidon, en fait, lorsqu'on fait des parcours alpha, hein, qui sont des parcours de découverte de la foi proposés par cette association qui vient d'Angleterre, souvent, en fait, on commence par dire « oui, le Christ a vraiment existé et les récits évangéliques sont fiables ». Faut-il le préciser pour les auditeurs qui nous prendraient, qui ne seraient pas habitués à cette émission, quand on dit que le Christ est revenu de la mort, c'est pas un bouquin qui dit ça en l'air. Enfin, est-ce qu'on a des... comment prêter foi en fait à ce récit évangélique?
Alors là, il y a deux questions différentes, parce que l'existence du Christ, on peut la prouver historiquement, si vous voulez, des preuves rationnelles de l'existence historique du Christ. On n'a pas de preuves rationnelles de la résurrection d'entre les morts. C'est une vérité de foi. Hein, on peut en rendre compte rationnellement. Je peux rendre compte rationnellement par ma raison du contenu de ce que veut dire être ressuscité, mais je ne peux pas vous prouver que le Christ est ressuscité d'entre les morts, ou que la résurrection peut faire l'objet d'une preuve, comme une preuve expérimentale. C'est pas possible. D'ailleurs, si je le faisais, je serais plus dans l'ordre de la foi. Mais comme a dit très bien le Père, c'est une espérance certaine, parce qu'elle s'appuie sur quoi? Sur la parole de Dieu, sur ce qu'on appelle la révélation. Dieu nous a fait la révélation qu'il y a une autre vie, une vie avec lui et en lui, par laquelle l'homme s'accomplira définitivement. Ça c'est certain.
Père Christophe Véron, je vous donne la parole avec une question, toujours. Hein. C'est mon rôle. Est-ce que quand vous faites cette annonce de foi, quand vous accompagnez des gens qui sont dans le deuil, pour les personnes, c'est facile à entendre, ou est-ce qu'ils remettent en cause en fait cette parole que vous leur annoncez?
Je ne crois pas que ce soit facile à entendre, mais par contre, l'annonce de la foi fait toujours appel à un espace de liberté. et je rejoins les propos du père il y a quelques instants, c'est qu'on n'adhère pas par obligation. C'est une proposition de foi. Et nous avons quand même le devoir de proposer, d'annoncer la foi en Jésus-Christ. Par contre, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est de brimer la liberté des autres. Nous avons un devoir annoncé, proclamé, et la personne reçoit, accueille. Alors il y en a pour qui le jour J, c'est non entendable, parce qu'il y a la douleur de la mort, parce que si c'est un accident, si c'est quelqu'un de jeune, c'est de la révolte. Et parfois, je dis même à des gens, moi je suis content quand vous vous révoltez, dites à Dieu que vous n'êtes pas d'accord, parce que c'est déjà une preuve de foi. Mais à d'autres, c'est pas entendable. Et puis, ça sera entendable, peut-être dans 10 ans, 20 ans, peut-être que ça sera entendable le jour de leur propre rencontre avec le Seigneur.
Père Bernard Berthuis, une question aussi, ça paraît, pour que ça ne paraisse pas trop irénique, je ne sais pas si c'est la bonne expression, la mort, ça reste malgré tout un scandale et une souffrance parfois terrible, faut-il le rappeler. Donc ce pas de la foi, c'est parfois un cheminement extrêmement compliqué, en fait.
Oui, c'est sûr. Mais en même temps, je pense que, heureusement que nous n'avons pas de preuves radicales de la résurrection du Christ. Dieu nous respecte trop dans notre liberté pour nous imposer quoi que ce soit. Par contre, ce qui est important, c'est peut-être la phrase de Gabriel Marcel qui nous donne la réponse lorsqu'il dit « Aimer, c'est dire toi, tu ne mourras pas ». Et je crois que Dieu est dans cette démarche-là où son amour veut une seule chose, nous sauver et nous donner la vie. Voilà, un petit peu. Ça, c'est notre foi, et faire fi de l'amour de Dieu, c'est faire fi. Par contre, la mort demeure une imposture.
Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Au mort, il a donné la vie. Aujourd'hui s'accomplit la Pâque du Seigneur, et Dieu pose en Sion
Pella.
Ce matin, donc, nous parlons de la vie après la mort avec cette question simple. Qu'y a-t-il après la mort ? Alors, on l'a entendu, hein, on ne l'a pas vu, mais on l'a entendu, cette bonne nouvelle de la résurrection du Christ et du coup cette promesse du Christ et de l'Église d'une vie éternelle avec Dieu. Pour autant, entre guillemets, ce n'est pas forcément une évidence, contrairement à ce que dit la chanson, est-ce qu'on va tous au paradis ? Pas forcément, semble-t-il. En tout cas, ce n'est pas ce que dit l'Église. Lors de la Toussaint, on entend la chose suivante à propos des fidèles qui seront au ciel. Ils sont revenus de la grande épreuve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Qu'est-ce qui se passe quand on est chrétien ? Qu'est-ce qu'on croit ? Qu'est-ce qui se passe après la mort ? Je meurs et après, so what, comme diraient les jeunes, oui. Père Philippe-Marie Margelidon.
Alors, c'est vrai que la mort est une épreuve. Bon, dans le texte biblique, ce n'est pas uniquement la mort qui est en question, hein, comme épreuve. Enfin, peu importe. C'est de fait, la mort est une épreuve pour ceux qui ont à mourir, parce que on peut mourir d'un seul coup, mais parfois on met du temps à mourir, et donc il y a un fieri, c'est-à-dire une certaine, il faut se mettre à accepter de mourir. Il y a des gens qui ont du mal à accepter de mourir, c'est même beaucoup. Et puis il y a l'après-mort. Alors, si vous voulez, à propos du jugement, donc si la mort est une épreuve, après la mort, je dis bien après la mort, ça a une certaine importance, nous entrerons dans la vie, on dit. Entrer dans la vie, quoi ? La vie de Dieu, la vie éternelle, c'est-à-dire la vie avec Dieu, la vie bienheureuse. Pour entrer dans la vie bienheureuse, le Seigneur va prendre les choses en main. C'est-à-dire qu'on n'y entrera pas dans la vie éternelle par effraction, comme si on va, le Seigneur va nous jauger, va nous juger pour vérifier de quel bois on est fait. Est-ce qu'il y a suffisamment de consistance dans notre vie pour entrer avec lui dans le royaume, ou bien est-ce qu'il faudra quand même s'y préparer encore un peu, hein, par l'amour, car c'est la vie de l'amour, mais qui, plutôt que de m'unir à Dieu à ce moment-là, va me purifier. Autrement dit, avant d'être uni définitivement avec Dieu dans ce qu'on appelle le ciel, la vie éternelle, il nous purifiera. Hein. Ça veut donc dire qu'avant d'entrer dans la vie éternelle, il y a après la mort un jugement qu'on appelle le jugement particulier, qui est distinct du jugement dernier.
C'est-à-dire que donc on meurt, on fait face au Christ.
On fait face au Christ, ou ce qu'on appelle, l'Écriture appelle le tribunal du Christ. Hein, c'est une image, hein, attention. Et le Seigneur va jauger, j'aime bien cette, de mon cœur, la qualité réelle de mon cœur, pour vérifier s'il est apte ou non à être avec lui définitivement, ou s'il faudra être purifié des scories, des débris, des déchets qu'il habite encore. Et puis peut-être aussi, pour un certain nombre, ça que Dieu seul connaît, il y aura une inaptitude radicale de mon cœur, hein, qui est ce qu'on appelle l'enfer éternel.
En tout cas, là, ce que vous nous dites, donc, c'est qu'après la mort, il y a ce qu'on appelle le jugement particulier. On fait face au Christ et on fait face à l'amour même. Hein, et l'amour même, en fait, nous passe au feu de ce qu'il est. Et soit on rentre dans la vie éternelle, même si les mots sont probablement inappropriés, soit il y a ce temps de purification. Du coup, je disais en introduction, la mort, comment dire, l'après-mort peut être au-delà de nos rêves. Néanmoins, est-ce qu'il ne faut pas dire, Père Christophe Véron, un mot de ce face-à-face avec le Christ qui n'est pas forcément une évidence. Là, on pense à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait que la brûlure d'amour de Dieu, en fait, était quelque chose qui semblait tellement forte et incandescente qu'on pouvait presque en avoir peur parfois.
Je vais vous répondre avec une expérience vécue à Colomiers avec un jeune malade du sida et qui avait connu l'amour dans différentes formes, l'amour tarifé, l'amour, voilà, mais pas l'amour avec un grand A. Et quand il est arrivé pour être soigné pour les derniers jours sur la vie terrestre, il a refusé que les personnes qui étaient là posent un baiser, posent des gestes de tendresse sur lui. Et il a fallu plusieurs semaines pour accepter d'être aimé gratuitement. Et je me dis que par rapport à la liberté que Dieu nous donne et à cette rencontre que nous allons faire avec celui qui est tout amour, eh bien, les expériences humaines que nous aurons vécues de l'amour seront peut-être pas très évidentes, pas très belles, et que la beauté de l'amour avec laquelle le Seigneur nous aime, eh bien, on va peut-être avoir du mal, moi le premier, à accepter cet amour donné. Alors, tout à l'heure, on a dit qu'on allait être jaugé dans l'amour. Eh bien, c'est cet amour-là dont il va falloir que je mesure la dimension infinie que mon langage ne sait pas dire, que mon cœur a du mal à contenir, mais qui est la réalité de notre foi. Dieu est amour et Dieu nous aime. Dieu nous aime et il nous aime dans notre liberté. Voilà, c'est-à-dire que même après la mort, on a encore la possibilité de dire non.
Ça peut-être pas.
Alors, excusez-moi, je relance.
Avant la mort.
Je relance
pas
parce que
après la mère.
Avant la mort. Parce que, alors, pour le coup, ça fait peut-être un peu initié, mais on a l'idée parfois que justement c'est après la mort qu'on se décide. Or,
non.
Quand on lit le catéchisme de l'Église catholique, alors du coup c'est vrai que ça peut faire trembler, il est dit qu'en fait d'une certaine manière c'est les dispositions dans lesquelles on meurt qui déterminent notre mort. Alors est-ce que vous pouvez juste nous expliquer ce que ça veut dire, Père Philippe-Marie Marjolidon ?
Oui, simplement, la liberté, la liberté de choisir, si vous voulez, ou la liberté de consentir plutôt que de choisir, de consentir à l'amour de Dieu, c'est avant la mort. Hein, peut-être jusqu'à l'instant ultime, pas après. Après, c'est le jugement. Là, c'est le Seigneur qui prend les choses en main, disais-je tout à l'heure. C'est lui qui va nous juger de ce que l'on aura fait, de ses dons en nature, de ma vie humaine, et puis de sa grâce qui m'aura toujours prévenu avant, avant la mort. Donc là, il ne faut pas d'ambiguïté. Hein. Il n'y a pas de choix dans la lumière, comme disent les gens, on verra Dieu, alors là, on pourra choisir. C'est avant qu'on choisit, ce n'est pas après. Après, c'est le jugement, et puis c'est l'entrée définitive dans la gloire, dans la béatitude, dans le bonheur éternel avec Dieu, ou bien pas du tout, ou bien ce que j'ai appelé l'inaptitude radicale tout à l'heure, hein, je suis inapte à entrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, Dieu consent, j'allais dire, à ce que je ne suis pas capable de lui, et je suis dans un état de séparation définitive avec lui. Mais ce n'est pas après la mort que tout va se jouer encore une fois. C'est pour ça que la mort a un côté dramatique aussi. Hein. C'est non seulement humainement, mais spirituellement, religieusement, tout va se jouer avant la mort, et puis à la mort, dans la mort, au moment où la mort va me saisir.
Alors peut-être
parce c'est pour ça qu'on prie non seulement pour ceux qui sont morts, c'est-à-dire ceux qui sont au purgatoire, qui purifient. Oui. Mais on prie aussi pour notre salut avant, parce que c'est avant que tout se joue.
Alors peut-être je fais une précision hein, sur l'enfer, parce que l'émission court et puis on n'aura pas forcément le temps d'en parler. L'enfer, si je ne me trompe pas, hein, c'est la personne qui, en conscience, en fait, refuse la miséricorde de Dieu. Et là, du coup, Dieu ne peut rien faire, et c'est donc une séparation définitive de Dieu. Père Bernard Béthuy, quand on entend ça, on se dit, on peut avoir une question terrible en retour, c'est mais alors qui va aller au ciel ? Parce que qui peut accueillir l'amour infini dans son cœur en étant capable ou sans exploser, j'ai envie de dire ?
Oui, je pense que de toute manière, à partir du moment où on est dans sa vie, on a été capable d'amour, je pense que déjà on a perçu la chose par le bon bout, si j'ose dire. Il faut donc avoir vécu un certain nombre de choses. Et dans le texte du jugement de Matthieu, il est important, me semble-t-il, de nous rappeler ce sur quoi portera le jugement. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. Il y a là quand même une invitation très claire à savoir quel est le domaine dans lequel nous devons en priorité travailler, à savoir permettre à toute l'humanité d'atteindre, j'allais dire, à cet espace qui fait qu'on est libéré des conditions matérielles pour enfin donner libre cours à ce qui nous constitue vraiment, c'est-à-dire l'esprit et tout ce qui relève du spirituel et bien sûr de Dieu et des autres.
Père Christophe Véron, c'est ça là, enfin, entre guillemets, la manière dont s'exercera le jugement de Dieu, c'est-à-dire le soin qu'on aura pris des personnes qui souffrent ou qui sont en difficulté autour de nous.
Il y a aussi une autre phrase de l'Écriture qui dit que tout homme qui croit en Jésus-Christ, mort et ressuscité, aura la vie éternelle. Et que quand on a la conscience de cette réalité, ça se traduit par les actes. Et les actes d'amour que vient d'évoquer le Père Bernard. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand est-ce que nous l'avons fait ? Quand vous l'avez fait à l'un de ces petits, qui est votre frère, c'est à moi que vous l'avez fait. Et je crois que là, on entre pleinement dans la dimension d'une vie offerte à l'amour, et pour nous croyants, d'une vie offerte à l'amour en réponse à cet acte merveilleux du Christ pour nous, pour moi, mort et ressuscité. Pas mort et ressuscité pour l'humanité, mort et ressuscité pour moi. Et comme c'est vrai pour tout le monde, ça l'est pour l'humanité.
Eh ben, merci beaucoup à nos invités d'être venus de nous éclairer sur cette question. Qu'y a-t-il après la mort ? Il faudra refaire d'autres émissions pour mieux comprendre et pénétrer ce mystère infini. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet radioprésence.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Nous serons à Lourdes en direct à l'occasion de l'ouverture de l'Assemblée plénière des évêques.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.